Une vie pleine de sens. En passant, cette photo-là, je l'ai prise cet été à Notre-Dame du Portage avec mon épouse. Semble-t-il, sur la Terre, je ne sais pas si dans les atlas que c'est marqué ou quoi, c'est un des plus beaux points de vue pour les couchers du soleil. Puis, Seigneur, on en a fait tout un cet été. Bon, je vous dis ça parce que je vais rattacher ça à quelque chose tantôt. Une vie pleine de sens. Sans tourner, je pense que je l'ai à l'écran. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens, cette affaire-là. Sans tourner, lorsqu'on parle du psaume 139, on a souvent, puis moi j'ai toujours eu une seconde avec moi, donc j'ai toujours la version seconde en tête quand je pense au psaume 139, versets 13 à 17. Mais je vous propose la version Darby ce matin, la version plus littérale, dans laquelle on va chercher peut-être des richesses qu'on n'a pas dans les autres versions. Et dans le psaume 139, versets 13 à 17, on lit ceci, « Car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, je te célébrerai de ce que j'ai été fait. » Et là, j'aime bien l'expression d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, mon âme le sait très bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné, et là, regardez, comme une broderie. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. Dans les lieux bas de la terre, tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre, entre parenthèses, mes membres étaient tous écrits. De jour en jour, ils se formaient lorsqu'il n'y en avait encore aucun. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu, combien en est grande la somme. C'est intéressant ce passage-là. Récemment, le Parlement canadien, il y a quelques semaines, se demandait si le fœtus était un être humain. Et on a la réponse de Dieu dans ce passage. Par conséquent, l'avortement est un meurtre. Mais la société veut se déculpabiliser en refusant de reconnaître que le fœtus est un être humain. Alors, ce passage-là est très clair là-dessus. Pas besoin d'un parlement pour déterminer ce que Dieu a déterminé. Voilà comment un journaliste, vous savez, les journalistes, on dit toujours la vérité. Je dis tout le temps, on rapporte les mensonges des autres. Mais les mensonges qu'on écrit sont les vrais mensonges. Non, mais voilà comment un journaliste scientifique, là, il y a plus de crédibilité que quelqu'un du nouvelliste, là. Voilà comment un journaliste scientifique décrit l'être humain. L'homme est un être merveilleux et d'une complexité inimaginable. Voici ses caractéristiques techniques. Il est tout à la fois une usine chimique, un réseau électrique, une installation de climatisation. En vieillissant, il y en a qui ont froid, il y en a qui ont chaud. Et une station d'épuration. On ne rentre pas dans les détails, là. Le tout commandé à partir d'un élément central, le cerveau, un ordinateur pensant et capable en plus de cela d'aimer et de haïr. Puis là, on pourrait y aller une grande description sur le côté merveilleux de la machine humaine que nous sommes. Et ça, je pense qu'on l'oublie parfois comment c'est merveilleux l'être humain. Un seul défaut à cette machine, elle est sujette à l'usure, hein, malheureusement. Mais on ne se rend pas compte souvent à quel point nous sommes, comme le dit la version seconde, créatures merveilleuses. Pour reprendre cette expression-là. Et comme j'aime bien cette expression-là dans la version d'Arby, on était conçus d'une étrange. On ne peut pas expliquer la conception. Tu sais, je veux dire, on a beau savoir des données scientifiques, on ne peut pas l'expliquer vraiment. C'est étrange. C'est admirable. On était conçus d'une étrange et admirable manière. Or, la qualité de notre vie au quotidien est déterminé en grande partie par nos sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, la vue, on considère leur existence souvent comme allant de soi, mais en général, on s'en préoccupe que lorsqu'il y en a un qui ne fonctionne pas. Il suffit d'avoir le nez bouché à un moment donné, puis les aliments goûtent moins, hein, on sait. Ou lorsqu'on commence à perdre un petit peu, lorsqu'on a besoin de lunettes, hein, les yeux s'affaiblissent, ou des fois, les appareils auditifs. On voit que les sens, ça fait partie de notre qualité de vie. C'est ce qui détermine la qualité de vie lorsqu'on a tous nos sens en fonction. On peut même dire que nos sens sont constamment en exploration au quotidien. Mais on consacre beaucoup, une bonne partie de notre vie à la recherche de sensations nouvelles. Lorsqu'on est prêt à entreprendre de longs et coûteux voyages, c'est pourquoi? C'est pour voir des choses. C'est pour vivre des choses, manger des choses. Chaque fois qu'on est prêt à y mettre le prix, c'est parce qu'on désire offrir des perceptions particulières à nos sens. C'est clair donc que nos cinq sens ont une influence déterminante sur la qualité de notre existence. Et chaque sens, ce matin, mériterait qu'on s'y attarde tellement l'œil, l'oreille, le nez, la langue, la peau sont des organes conçus par Dieu d'une manière étrange et admirable. Mais je ne suis pas ici ce matin pour un cours de biologie, mais je suis ici pour parler de théologie puis parler de pratique aussi suite à cette théologie-là. Maintenant, c'est vrai que notre qualité de vie terrestre est proportionnelle à la qualité de nos sens. Mais c'est aussi vrai que les fonctions des organes des sens de notre corps actuel cessent toutes au moment de la mort. Un mort, ça ne voit rien, ça ne touche plus à rien, ça n'entend plus rien, ça ne goûte plus rien, ça ne sent plus rien, à moins de lui-même commencer à sentir. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est le cas de Lazare, on s'en rappelle. Sauf que la mort, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas la fin de notre existence pour autant. Lorsqu'il nous a créés, Dieu a fait de nous des êtres éternels dont l'existence ne connaîtra jamais de fin. La mort physique concerne le corps physique, mais l'âme, une fois créée, ne meurt jamais. Aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, Jésus va leur citer dans Matthieu 22, 32 ce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode 3, 6, sans tourner. « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des quoi? Des vivants. » Si Dieu était le Dieu d'Abraham à l'époque de Moïse, Abraham étant donc encore vivant. D'ailleurs, sur la montagne de la Transfiguration, dans Matthieu 17, on voit apparaître qui? Moïse et Élie, aux côtés du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 10, 28, Jésus dira que l'âme ne peut être tuée, mais le corps, oui. La vie éternelle et le châtiment éternel exigent une âme qui soit immortelle. Même si la Bible déclare que Dieu seul possède l'immortalité dans 1 Timothée 6, 16, l'homme est également immortel dans le sens où son âme ne meurt jamais. 2 Timothée 1, 10 dira que par sa venue, notre Sauveur Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Un autre texte qui démontre qu'il y a une vie après la mort, et c'est ce texte que je vous invite à tourner, c'est dans Luc 16, un texte qui vous sera familier sûrement. Un texte qui nous démontre qu'il y a une vie après la mort, que tout ne finit pas à la tombe, c'est Luc 16. Et le verset 19. Luc 16, 19. Dans cette histoire-là, on ne prendra pas de temps de lire chaque verset, mais on va y référer tantôt. Jésus raconte l'histoire de deux hommes, dans le fond, dans Luc 16, 19 à 31. L'histoire de deux hommes dont l'existence terrestre a été interrompue par la mort, mais qui se trouvent désormais dans un autre monde. Et qui sont tout à fait conscients. Maintenant, ce texte de l'homme riche et de Lazare, comme on le reconnaît, qu'on le connaît, ce texte, certains vont dire qu'il s'agit d'une parabole. Bon, d'abord, rien n'indique dans le texte que Jésus est en train de raconter une parabole, parce que contrairement aux autres paraboles, des noms sont mentionnés dans cette histoire-là. On parle de Lazare, Moïse, Abraham. Alors, tout indique que Jésus raconte une histoire vécue, mais je ne ferai pas de débat là-dessus ce matin, parce que pour ceux qui préfèrent parler d'une parabole, on sait que les paraboles du Seigneur, de toute façon, sont là pour illustrer des vérités bibliques. On a donc un homme riche, dans les versets 19 à 31, dont l'unique motivation ici-bas était d'amasser des richesses, d'avoir des vêtements somptueux, de mener grande vie. Dieu n'avait aucune place dans son existence. Son nom intéressant lorsqu'on lit les textes, son nom n'est même pas mentionné par Jésus, alors qu'ici-bas, peux-tu vous gager que ce gars-là était connu? Que ce gars-là était reconnu dans sa société. Pourtant, l'autre bord, le Seigneur ne le considère même plus au niveau de son nom. On ne sait même pas son nom. Comme quoi, c'est beaucoup plus important d'être connu de Dieu que d'être reconnu des hommes. Et il était largement reconnu et envié à cause de ses biens, de son influence, comme quoi c'est... Je le disais tantôt, c'est plus important d'être connu de Dieu que d'être reconnu des hommes. Sa philosophie de vie était semblable à celle d'un bon nombre de personnes d'aujourd'hui. C'est quoi la philosophie du monde en général? Gagner de l'argent, rechercher le pouvoir, l'honneur et avoir du bon temps. C'est ça, la philosophie du monde. On peut lire les versets 19-20 pour remettre dans le contexte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est ce qu'on est en train de dire. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. On voit l'autre homme, Jésus, c'est intéressant, l'appelle par son nom. Il ne dit pas un pauvre. Un pauvre nommé Lazare. Quel contraste avec l'autre, hein? Il y avait un homme riche, on ne sait pas son nom. Jésus l'appelle par son nom, il s'agit de Lazare, il était pauvre, n'avait même pas de quoi manger à sa faim, il était méprisé par son entourage, pourtant il se savait porté par Dieu, car il avait une relation vivante avec lui. Quel contraste entre ces deux hommes-là. Et là, Jésus dépeint la situation de chacun de ces hommes-là après leur mort. Regardez le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et dans ses jours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Nous voyons donc que les deux hommes ont quitté ce monde à leur mort et qu'ils se trouvent désormais dans un lieu qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur la terre. Alors qu'auparavant, ils vivaient dans la même ville, leur demeure est maintenant radicalement différente. Tandis que l'un vit dans la gloire, l'autre se trouve dans un lieu de supplice. Puis je le répète, pour aucun de nous, la vie ne se termine par la mort biologique. Notre existence, c'est-à-dire une vie pleinement consciente, n'a pas de fin. Car nous avons été créés pour vivre éternellement. Un fait que nous voulions l'admettre ou non. Lorsque nous sommes venus au monde, on ne nous a pas demandé notre avis. De la même manière, lorsqu'on va mourir, on ne nous demandera pas notre avis non plus. Et nous continuerons d'exister éternellement, que nous voulions ou non l'admettre. Il y a la mort. Sur ce point non plus, personne ne va nous demander notre avis. Plus profond de notre âme, la certitude de l'éternité, car Dieu a placé dans notre être intérieur la connaissance de l'éternité. Ecclésiaste 3.11 dira quoi? Que Dieu a placé dans le cœur de l'homme, quoi? La pensée de l'éternité. On a tous l'impression qu'on vivra toujours de toute façon. Même si on sait qu'on va mourir, mais on sait qu'au fond de notre être, il y a une éternité quelque part. Qu'est-ce qui se passe à la mort? À la mort, le croyant naît de nouveau, entre dans la présence de Christ. Il demeure dans un état de félicité consciente jusqu'au moment de la résurrection où il recevra son corps de gloire. Qu'est-ce qui se passe pour l'incroyant? À la mort, l'incroyant entre dans un état de tourment conscient jusqu'à la résurrection. Il sera jeté dans l'étang de feu. Ce n'est pas des bonnes nouvelles à vous annoncer ce matin, là. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas chrétien. Alors, pour ceux qui pensent mettre fin à leur souffrance en se suicidant, ils auront une bien mauvaise surprise. S'ils ne connaissent pas le Seigneur. Il y en a qui vont dire, ah là, je vais me suicider, j'aurai plus de souffrance. Aïe, aïe. À propos de l'endroit où nous passerons l'éternité, la Bible mentionne deux lieux fondamentalement différents, le ciel et l'enfer. Le premier est une vie glorieuse avec Dieu, le second est la damnation éternelle loin de sa présence. Maintenant, si nous voulons tenter de décrire le ciel et l'enfer, nous pouvons le faire à partir des sens. Car il s'agit de deux endroits où nos sens seront actifs, au ciel et en enfer. Commençons par le ciel. Le ciel est un lieu de sensations visuelles et auditives. On en a fait allusion ce matin, on va voir Jésus face à face. C'est notre espérance. 1 Jean 3, 2 dira que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On verra. Au bout de la sagesse de Dieu, on en a parlé ce matin, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si nous sommes déjà émerveillés ici-bas par la sagesse de Dieu, comme on le fait ce matin au pas du Seigneur, à combien plus forte raison serons-nous éblouis au ciel lorsqu'on verra Dieu en personne et qu'on va vivre éternellement à sa présence? Donc, le ciel, c'est un lieu de sensations visuelles et auditives. On va voir, on va entendre. Hein? On a entendu des beaux chants ce matin. Imaginez la chorale au ciel. Les myriades d'anges. Ça va être épouvantable. Moi, la fois, là, ce matin, j'aurais écouté jusqu'à midi. J'aurais aimé mieux ça, là, comme entendre. C'est beau. On va entendre ça. Puis on va voir. On va voir la beauté. Ça va être beau au ciel. Alors, c'est un lieu de sensations visuelles et auditives. Le ciel est aussi un lieu de sensations gustatives et olfactives. Ça, ça me semble, le ciel, c'est fait pour les Québécois qui aiment manger comme nous autres. C'est bon, ça. En passant, vu qu'on a reculé l'heure, je vais prêcher 2 heures. Hein, vous saviez ça? Dans le Nouveau Testament, le royaume des cieux est comparé à quoi? Un grand festin. Les invités mangent et boivent. Voici ce que Jésus déclara aux disciples lors du dernier repas qu'il prit avec eux dans Matthieu 26, 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » C'est extraordinaire. Dans la parabole des noces destinée à nous présenter clairement la nature du ciel et Dieu comme l'autre qui invite à sa table, nous lisons également dans Matthieu 22, 4 « Voici, j'ai préparé mon festin. » Nous avons une autre déclaration frappante à ce sujet dans Luc 12, 37. Je vous dis en vérité, ce saint-drôle les fera mettre à table, s'approchera pour les servir. Donc, on peut en conclure que si le Fils de Dieu nous invite à sa table, celle-ci sera richement garnie de mets délicats et succulents. Comme la bonne vieille pizza dans le temps à Sherbrooke avec mon ami Martin. Ça va être mieux que ça. Ça va être mieux que ça. Le ciel aussi, c'est un lieu de joie et de bonheur intense. Et j'aime tellement leur pas du Seigneur parce que l'Esprit dirige. Il a été question du fils prodigue ce matin. Lorsque le fils prodigue revint chez son père, qu'est-ce qu'a fait son père? Celui-ci organisa une grande fête en son honneur. On l'a vu ce matin. Puis 15-24, je pense que notre frère Guy a arrêté juste à ce passage-là. Tout de suite après, dans Luc 15-24, lorsque tout fut prêt, il est dit qu'ils commencèrent à se réjouir. Puis aussi, quand ça va commencer, ça finira plus. La réjouissance perpétuelle, éternelle, ça va être extraordinaire. C'est un autre aspect primordial du ciel qui est exprimé ici. Le ciel est en effet un lieu de joie indicible et éternelle. Tout ce qui fait du bien à notre âme sera présent en abondance au ciel. L'amour, la paix, la bienveillance, le bien-être. Extraordinaire. En passant, le repas du Seigneur, c'est un avant-goût du ciel. Puis c'est intéressant, le repas du Seigneur a conçu ça de manière qu'on a les 5 sens aussi qui sont sollicités. On entend ce qui est apporté par les frères, on entend les chants, on entend les prières, on voit aussi les symboles, on les touche, on les sent quand ça passe, on les prend, on les mange, on le boit. C'est extraordinaire, ça. Mais c'est entièrement axé sur l'amour, la paix, la joie, la félicité dans la présence de Dieu. Privilège réservé aux enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau. L'enfer est au contraire un lieu de haine, de discorde, de souffrance, de tourment, complètement coupé de Dieu. L'enfer est lui aussi un lieu où existent les sensations. Même les situations les plus éprouvantes de notre vie ne sont pas éternelles. Tu sais, quand ça va mal, je pense qu'on peut tous faire un tour de table le matin, puis des fois ça ne va pas bien, hein, comme on dit. Mais c'est passager, parce qu'un jour, ça va finir. On va être au ciel. Il reste toujours aux croyants l'espérance qui existe par-delà de la mort. Mais en enfer, par contre, le caractère définitif des choses est également associé à l'absence totale d'espoir. Imaginez. On est rendu au bout du rouleau dans notre vie terrestre. Imaginez qu'en enfer, ça ne finit plus. On a vu les sensations, les sens au ciel. On va voir les sens et les sensations en enfer. L'enfer, c'est un lieu de soif et de tourment. Regardez, l'homme riche de Luc 16 implore Abraham en ces termes au verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Je trouve ça tellement terrible lorsqu'on voit des comédiens puis des humoristes se moquer de ces choses-là. Contraste quand on lit ça avec ce qu'a déclaré Jésus dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » D'une société et un monde sans Dieu qui a soif tout le temps. C'est pour ça qu'on essaie de combler ça par la sexualité, par le travail, par l'ambition, par de l'argent. Puis c'est toujours le vide, hein, les cisternes crevassées. Mais éternellement, dans l'enfer, c'est cette soif-là qui est terrible. Un lieu de soif et de tourment. C'est aussi un lieu de souvenirs. Aïe, aïe. Les connaissances que nous tenons de cette vie ne s'évanouissent pas lorsqu'on quitte ce monde. Dans son lieu de damnation, l'homme riche se souvient de qui? De ses frères. Qui mène une existence aussi impie que celle qu'il a eue. Ayant bien conscience de ne plus rien pouvoir pour eux, il se tourne donc vers Abraham en lui demandant de charger Lazare d'une mission. Tout à coup, là, l'inconverti, l'incroyant qu'il était, devient un missionnaire en enfer. Je vais envoyer mes frères annoncer quelque chose. C'est intéressant, regardez le verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Ça, on se souvient encore. « C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham va y répondre au verset 29. Abraham répond, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et là, le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Ça vous parle-tu de la parole de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu? C'est par elle qu'on vient à Christ. Personne ne peut revenir des morts pour avertir les membres de sa famille, d'abord. Et la seule chose qui nous montre le chemin du salut, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. L'importance de la prêcher comme il faut, de prêcher tout l'Évangile. Pas seulement la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle pour en arriver à la bonne nouvelle. L'enfer, c'est aussi un lieu de ténèbres. C'est un lieu de ténèbres. Au cours de notre vie ici-bas, nous avons de nombreuses occasions d'éprouver du plaisir de par ce qu'on voit, de par ce qu'on entend. Tu sais, imaginez les gens qui sont prêts à payer des prix de fou pour aller voir, la finale ou la cérémonie d'ouverture, de clôture des Jeux olympiques. Tu sais, on voit ça seulement à la télévision, c'est fantastique de voir ça. On est prêt à payer cher pour voir et pour entendre. J'ai été prêt cet été à aller à Notre-Dame-du-Portage pour aller voir ce fameux coucher du soleil-là. Ça demande des coûts. On est prêt à investir pour voir des choses. Mais dans l'ordre d'idée, on peut imaginer le ciel comme un lieu où ce qui est beau et glorieux aura une ampleur et une intensité inimaginable, avec en prime, chose encore impossible à concevoir pour nous, le fait que ça ne finira pas, ce sera toujours beau, fantastique, extraordinaire, parce qu'on verra le Seigneur face à face, puis tout ce qui entoure ça. À l'osé, l'enfer, c'est un lieu de ténèbres, nous dit la parole, dans lequel il n'y a plus rien de positif pour l'œil et l'oreille. Jésus a déclaré en Matthieu 25, 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le monde pense que c'est le fun d'avoir du fun. Puis l'autre bord, du fun encore. Les Trump Facebook, il n'y en aura plus bien, les Trump Facebook. Là. Quand on lit la Bible, on est frappé par le fait que personne n'a prêché à propos de l'enfer de manière aussi insistante, aussi détaillée, aussi fréquente que Jésus lui-même. Pourquoi Jésus a-t-il parlé tant de l'enfer? Aucun autre n'a aimé l'être humain autant que lui. Précisément à cause qu'il nous aime, qu'il nous en parle, pour qu'on y aille. Parce que c'est notre destinée naturelle. Dès qu'on vient au monde, on est tous pécheurs. La colère de Dieu est au-dessus de notre tête, une colère juste. Et si on meurt dans cet état-là, on s'en va en enfer. C'est tout naturel. Et la beauté de Christ, lorsqu'il est mort sur cette croix un jour, c'est qu'il a détourné la colère qui nous était destinée, puis il l'a dirigée vers lui à la croix. Je l'ai déjà dit dans d'autres messages, c'est une sorte de paratonnerre, j'aime ça appeler ça le paracolère, c'est que là, la colère qui était destinée à l'homme nous est déviée ou à la croix à cause de Christ. Sinon, on est naturellement, on vit au monde et on est destiné à l'enfer. C'est ça notre destinée. Et ce Seigneur en a parlé tant de l'enfer parce qu'il nous aime tant. Maintenant, le titre de mon message ce matin, c'est « Une vie pleine de sens », au sens d'organes sensoriels. Mais le mot sens a aussi un autre sens. Ça veut aussi raison d'être. Une vie pleine de sens, c'est aussi vivre une vie qui a une raison d'être. Et le seul sens à la vie, c'est de vivre pour Dieu. Le seul sens à la vie, c'est de vivre pour Jésus-Christ. Thèse sans tourner dira que tout a été créé par lui. Certains sont prêts à le reconnaître, mais peu sont prêts à reconnaître le reste du verset où il s'est dit que tout a été créé pour lui. C'est insensé de rechercher le bonheur en l'extérieur et en dehors de Dieu. On a été créé pour lui. Sauf que pour trouver ce sens à la vie, il faut passer par la croix. Notre péché, parce qu'on est tous pécheurs, nous sépare de notre Dieu créateur, et seule la repentance envers Dieu, seule la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, mort à notre place pour payer le prix de nos péchés, seulement ça nous fait entrer dans cette vie éternelle. Seulement ça nous fait entrer au ciel. Mais au-delà d'une éternité au ciel, avec tout ce que ça implique de sensations agréables, hein, parce qu'on en a parlé, ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, ce qu'on va goûter, au-delà de tout ça, c'est quoi la vie éternelle? J'aime bien, moi, que la Bible réponde à la Bible, ou réponde à nos questions, ou la Bible s'explique par la Bible. La vie éternelle, c'est quoi? Jean 17, 3, Jésus va dire, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. On a le temps de tourner dans un dernier passage. On va terminer dans 2-3 minutes, dans Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Intéressant, la version d'Arby dira, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Comme quoi, la foi qui sauve, c'est une foi qui produit l'obéissance. Si je me dis chrétien ce matin, puis je fais tout ce que je veux, je suis à ma tête. Pose-toi des questions sur ton salut. Celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous savez, la vie après la mort, c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens. Une horrible nouvelle pour les incroyants. Nous allons tous ressusciter. Jean 29 nous dit que les croyants vont ressusciter pour la vie, mais les incroyants pour le jugement. On va tous ressusciter, qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas. Mais c'est sur cette terre, pendant cette vie, qu'on doit prendre notre décision envers Jésus-Christ. Quand j'étais plus jeune, un bon vieux pamphlet qu'on avait, une fois j'avais une boîte de pamphlets chez nous évangéliques, un bon vieux traité, là. Puis un traité qui s'appelait « Trop tard ». Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il est plus vieux, évidemment. Deux mots terribles, ça, trop tard. Tu sais, à un moment donné, il est trop tard, il est trop tard. C'était fantastique, le ciel, mais on a vu comment c'est terrible, l'enfer. Puis on aura les souvenirs en enfer, ceux qui vont aller là. Puis en enfer, j'espère que ce ne sera pas ton cas, mais si tu devais refuser Christ ce matin, si tu n'es pas sauvé encore, si tu devais te ramasser en enfer, tu vas te souvenir du 4 novembre 2012. Ou t'as entendu parler de la parole de Dieu? Cette parole qu'on vient de lire. Mon message ce matin, dans le fond, c'est n'attends pas qu'il soit trop tard. Ah, il y a des grandes séductions dans ce monde d'avoir du plaisir, du succès, de l'ambition, etc. Puis on essaie d'étirer la vie terrestre, puis de se botoxer au bout pour te faire jusqu'à 100 ans. Mais tôt ou tard, ça va finir. Où tu vas finir? N'attends pas qu'il soit trop tard, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous, le brigand sur la croix. Il était minuit moyenne dans son cas. deux brigands, un côté de l'autre, Seigneur, puis les deux insultaient le Seigneur de la même manière, puis tout à coup, l'un est sur le point de mourir. Jésus a dit dans Luc 23, 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui, quelle promesse incroyable. Aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est ça le ciel, d'être avec Christ, dans le paradis. Imaginez, là, il y en a un qui est mort avec cette espérance-là, puis l'autre qui est mort dans ses péchés, condamné en enfer. Lui aussi avait eu la même occasion de se repentir. Jésus a divisé le monde en deux, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui vont au ciel, ceux qui vont en enfer. Alors, mon message ce matin, mon appel, c'est tourne-toi dès maintenant vers Jésus. Puis je vais terminer dans un dernier texte, il est midi moins 5 bientôt, puis j'ai dépassé de 4 minutes. Là. Jean 5, 24. J'ai toujours dit dans un message, ce qui est parfait dans un message, c'est quand on lit la parole. Le reste, ça se gâte un peu après, là, mais on va finir en lisant la parole. Jean 5, 24. Jésus qui dit ceci, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Et quand il dit en vérité, on est mieux d'écouter. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Dès maintenant, ce n'est pas quelque chose que j'espère avoir, peut-être pas sûr, comme on voit dans les autres religions. Non, a la vie éternelle. Et, gardez la bonne nouvelle, ne vient point en jugement, c'est fini ça. Mais il est passé de la mort à la vie. Merci Seigneur. Quel beau texte, hein, Romains 8:1, il n'y a plus aucune condamnation. Pour qui? Pour tout le monde? Non, non. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, ce matin, merci de nous avoir réunis autour de ta parole, qui est l'autorité dans nos vies, l'autorité de cette Église, l'autorité de toutes choses, par laquelle on est venu à toi, Seigneur, pour ceux qui t'appartiennent ce matin. Et pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur, quelle espérance on a, une espérance vivante de voir le Fils de Dieu face à face. Voir mon Sauveur face à face, quel beau cantique. Et Père, non seulement on verra le Fils, mais aussi on aura toute cette joie au ciel, avec la vue, avec l'ouïe, avec l'odorat, le toucher, le goûter. Seigneur, nos sens seront mis au service de l'éternité. On sera dans une félicité éternelle, ça finira plus jamais. Mais en contraste, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui vont mourir dans l'état de pécheur, incroyant, perdu, Seigneur, ce qui attend cette personne-là, c'est l'enfer éternellement. Un lieu de tourment, de douleur, de souvenir, de soif, de ténèbres, qui ne finira jamais. Et Père, fais qu'il n'y ait aucune personne ce matin qui reparte ici sans avoir pris position pour toi, sans avoir donné sa vie, sans s'être tourné à la croix du calvaire et dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur perdu, justement condamné en enfer, mais je reconnais que tu es mort à ma place et je place ma foi et ma confiance en toi. Et sur cette base, Seigneur, de la foi et de la repentance, cette personne qui fera ce pas-là, cette prière-là, cette décision-là sera sauvée pour toujours, car le salut ne se perd pas. Père, merci pour les avertissements dans ta parole. Merci de nous avertir. Ton Fils a voulu avertir le monde de l'enfer parce qu'il ne voulait pas qu'on y aille. Puis il a pourvu une solution pour qu'on n'y aille pas, une solution qui a coûté cher, le sacrifice du Fils de Dieu. Bénis ton peuple au cap et fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci.